Laudetur Jesus Christus.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonsoir, prenons la direction du Liban ce soir avec ce reportage à l'hôpital de la quarantaine situé juste à proximité du port de Beyrouth qui a vu son unité pédiatrique complètement soufflée par l'explosion du 4 août dernier. Après 8 mois de travaux, cet hôpital vient d'être reconstruit grâce à l'aide des gouvernements suisses et français. Un hôpital gouvernemental également financé par des ONG qui est dédié aux classes les plus pauvres du Liban, ouvert à tous sans condition. Mais l'établissement, à l'image du pays du Cèdre, souffle de multiples crises économiques ou sanitaires. Écoutez ce reportage d'Anaïs Renevier.
Un souffle de vie dans l'unité pédiatrique de l'hôpital de la quarantaine. Le bâtiment vient d'être reconstruit. Un soulagement pour Marie Ralifé, infirmière.
Dans ce nouveau hôpital, il nous a donné l'espoir, il nous a encouragé que la vie va continuer.
L'unité pédiatrique avait été transférée dans une autre partie de l'hôpital, mais par manque de place, certains patients ont dû être refusés. Hussein Al-Mussin est le chef du personnel.
Notre hôpital, c'est un centre de référence de pédiatrie au Liban. On accueille les enfants du sud, du nord, de tout le Liban, même les Syriens, même les réfugiés syriens, même les Palestiniens. Mais aujourd'hui, on ne peut pas accueillir tous les patients.
Le pays est plongé dans une grave crise économique et de plus en plus de Libanais ont du mal à se soigner, comme l'explique le professeur Robert Sassi, chef de l'unité.
Maintenant, on a de plus en plus de Libanais qui sont en train de venir se soigner chez nous. Avant, on était arrivé peut-être à un moment où on avait 60% de réfugiés syriens, 40% de Libanais. Maintenant, on est en train de faire 60% de Libanais parce que les Libanais sont devenus plus pauvres que les Syriens.
De nouveaux lits, de nouvelles couveuses et même un bloc opératoire pourront accueillir le double de patients. Une fois les enfants complètement installés dans le nouveau bâtiment, leurs anciens lits accueilleront des patients Covid pour soulager d'autres hôpitaux saturés. Anaïs Renevier à Beyrouth pour Radio Vatican.
3 soldats exécutés pour haute trahison en Arabie Saoudite. Selon le ministère de la Défense, ils ont voulu déstabiliser le royaume et ses intérêts militaires. L'ennemi avec lequel ils ont collaboré n'a pas été mentionné par les autorités saoudiennes, mais il pourrait s'agir de rebelles yéménites que Riyad combat depuis 2015. À la veille de l'élection présidentielle au Bénin, le climat est toujours pesant dans certaines régions du pays. C'est le cas dans le Nord, où le matériel électoral n'était toujours pas arrivé cet après-midi en raison de barrages dressés par des manifestants. Le président sortant Patrice Talon, élu en 2016, est accusé d'avoir confisqué le pouvoir et laissé que des miettes à l'opposition. Des salves de canons ont retenti aujourd'hui dans tout le Royaume-Uni ou encore à Gibraltar pour rendre hommage au prince Philippe mort hier. 2 minutes de silence ont été observées par des militaires à cheval devant le château de Windsor où s'est éteint l'époux de la reine Elizabeth. De nombreux Britanniques ont encore fait la queue aujourd'hui pour déposer des bouquets devant Buckingham Palace. Dans un télégramme à la couronne britannique, le pape François fait part de ses condoléances à la souveraine et à la famille royale, rappelant le dévouement du prince Philippe à son mariage et à sa famille, son parcours distingué dans le service public et son engagement pour l'éducation et la promotion des générations futures. Sa sainteté le recommande à l'amour miséricordieux du Christ notre Rédempteur, écrit le pape dans ce message. Une 9e nuit d'émeute à Belfast, en Irlande du Nord, où le Brexit ébranle toujours une paix fragile. Les unionistes protestants s'estiment trahis par le traité de commerce et de coopération signé à Bruxelles par le Premier ministre Boris Johnson. En effet, une frontière a été établie en mer d'Irlande, impliquant des contrôles douaniers qui, entre autres, provoquent des pénuries dans les supermarchés. La colère est toujours grande, la correspondance de Jean Jaffré.
Confrontés à des cocktails Molotov et des jets de projectiles, les policiers ont utilisé un canon à eau pour disperser les manifestants. Parmi eux, des jeunes de 12-13 ans, encouragés par une foule de plusieurs centaines de personnes dans un quartier loyaliste de Belfast. Les incidents ont été aussi signalés dans un secteur nationaliste à Coleraine. 74 policiers ont été blessés depuis le début des émeutes il y a 9 jours. Dans un tweet, le Premier ministre déclarait profondément préoccupé par cette flambée de violence, affirmant que les différends entre les deux communautés devaient être résolus par le dialogue. Mais Boris Johnson doit assumer une part de responsabilité pour avoir solennellement garanti que les marchandises pourraient continuer de circuler librement entre la Grande-Bretagne et la province, restée dans le marché unique. Depuis, les unionistes protestants qui ont voté pour le Brexit se servent notamment des difficultés d'approvisionnement pour exiger l'abrogation du protocole irlandais, ce qui constituerait une violation du traité de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Des tractations sont en cours à Bruxelles pour tenter de faire fonctionner cet accord. Londres, Jean Jaffré, Radio Vatican.
Et le Premier ministre irlandais Michel Martin a mis en garde aujourd'hui pour sa part contre une spirale de la violence qui pourrait menacer, selon lui, la paix en Irlande du Nord. La répression se poursuit en Birmanie. Ce samedi, l'ONG Human Rights Watch a dénoncé la condamnation à mort de 19 personnes pour des faits de droit commun. C'est une première depuis le coup d'état militaire du 1er février. Selon l'ONG, le but est de dissuader la population de descendre dans les rues pour contester le pouvoir. Quatre embarcations avec à leur bord 84 migrants tentant de gagner les côtes britanniques ont été secourus ce matin au large du littoral dans le nord de la France. Une information rapportée par la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. En 2020, plus de 9500 traversées ou tentatives de traversée de la Manche ont été recensées. C'est quatre fois plus qu'en 2019, selon un bilan de la préfecture. Avant de passer à notre dossier, je vous rappelle cette information au Vatican. Le pape François célébrera demain le dimanche de la Divine Miséricorde en présidant une messe à Santo Spirito in Sassia, une église non loin du Vatican. Une cérémonie à suivre en direct sur Vatican News et notre page Facebook, commentée en français à partir de 10h30. Participeront à cette célébration des réfugiés, des prisonniers ou encore des infirmières de l'hôpital voisin. Le royaume de Jordanie célébrera demain son centenaire dans une ambiance un peu particulière. Le trône de ce pays du Moyen-Orient étant déstabilisé depuis plusieurs jours par les dissensions qui font rage au sein de la famille royale. Samedi dernier, le prince Hamza, arrière-petit-fils du fondateur de la monarchie hachémite jordanienne, a été assigné à résidence, accusé d'être impliqué dans un complot maléfique contre son pays, ce dont il s'est défendu. Une vingtaine de personnes ont été arrêtées depuis, et si sous la pression de la famille, le prince a promis de rester fidèle au roi Abdallah II, il a toutefois critiqué la mauvaise gestion du souverain pouvant conduire le pays à sa perte. Retour sur ce contexte fébrile et les dernières turbulences sociales du royaume jordanien avec Camille Abesca. Elle est doctorante au CERI, le Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po Paris.
Ce qu'on sait notamment, c'est qu'entre 15 et 20 personnes ont été arrêtées samedi et on connaît l'identité de deux personnalités importantes parmi les personnes arrêtées. Bassel Awadala, qui est un proche du roi Abdallah II, qui est un ex-ministre des Finances, ex-chef de la Cour royale, accusé de corruption. Peu apprécié de la population, aussi parce qu'il est perçu comme un des fers de lance des politiques de privatisation dans le pays et qui est depuis quelques années consultant auprès de Mohamed bin Salman. Et deuxièmement, vous avez aussi Sharif Hassan, qui est lui un membre de la famille royale et un envoyé de la Cour royale en Arabie Saoudite. Mais l'événement le plus marquant à côté de ces arrestations, c'est l'assignation à résidence du demi-frère du roi, l'ex-prince héritier Hamza bin Hussein, particulièrement aimé des Jordaniens. Et donc lui est accusé d'avoir élaboré un plan pour déstabiliser la sécurité et la stabilité de la Jordanie. Finalement, on a très peu d'informations tangibles sur ce supposé complot.
Quel était le contexte politico-social jordanien juste avant ces événements?
Ces dernières années, vous avez vraiment eu toute une série de mobilisations qui ont donné à voir l'étendue de la contestation sociale et des critiques à l'égard du régime. Il y a par exemple les manifestations de 2018 contre le vote de la loi fiscale. Il y a eu ensuite la grève et les manifestations du syndicat des enseignants à partir de 2019, ou bien plus récemment, toutes les manifestations contre les mesures sanitaires ou celles organisées à la fin du mois de mars pour l'anniversaire des printemps arabes en Jordanie. Et là, les événements du week-end dernier, ils ont en un sens permis à la population de voir que les critiques pouvaient aussi venir du cœur même du pouvoir. Pour prendre un autre exemple, dans les manifestations qui ont eu lieu ces dernières semaines, c'était pas des manifestations d'une très grande ampleur. Il y a eu plusieurs dizaines de manifestants qui ont été arrêtés. Donc on est aussi dans ce climat d'une contestation sociale à laquelle on répond par la répression.
Oui, donc selon vous, les événements du week-end dernier peuvent ouvrir en quelque sorte une brèche dans l'opposition. Quels seraient les vrais risques d'une déstabilisation à moyen terme de ce royaume jordanien?
Pour l'instant, pour être honnête, si on regarde l'histoire de ces 30 dernières années, le régime a plutôt toujours su faire preuve d'une assez forte résilience face aux épisodes de crise et de contestation politique. Les événements des derniers jours vont avoir des effets qu'il est encore assez difficile d'évaluer à mes yeux. Cela va aussi sûrement entacher ou fragiliser l'image de stabilité de la Jordanie, notamment à l'international. Rien ne porte à croire que le royaume en sortira fragilisé ou particulièrement déstabilisé.
Interrogée par Delphine Allaire, Camille Abesca, doctorante au CERI de Sciences Po, était l'invitée de Radio Vatican. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne soirée et une excellente fin de week-end.